faut vraiment bien choisir ses associés. Je pense que monter une boîte avec un pote, c'est pas un problème. Monter une boîte avec un mec qui a exactement les mêmes compétences que toi, c'est hyper compliqué.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
Bienvenue dans La Galère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Benhamou, le fondateur de PeopleDoc. Salut Jonathan.
Salut.
Très très heureux de te rencontrer. Est-ce que tu peux, pour les quelques personnes peut-être qui ne connaissent pas, nous parler de PeopleDoc?
Oui, alors déjà, je suis cofondateur de PeopleDoc.
Cofondateur.
c'est important de rappeler qu'on ne l'a pas fait tout seul. Écoute, moi, je m'appelle Jonathan Benhamou, je suis papa de 2 enfants, j'habite à Madrid maintenant, j'ai déménagé il y a 8 mois. J'ai commencé PeopleDoc en fin 2007, en sortant d'école. Donc PeopleDoc, c'est une plateforme de digitalisation des processus RH, donc pas hyper sexy. On a aujourd'hui à peu près 2000 clients, on sert un peu plus de 6 millions d'utilisateurs. On va faire 100 millions d'ARR là cette année, donc c'est devenu une boîte assez grosse avec un peu plus de 450 employés.
Wow.
Et en fait, on a la particularité de s'être fait racheter il y a un an et demi maintenant par une boîte américaine qui s'appelle Ultimate Software. Pour 300 millions de dollars en juillet 2018.
Donc c'est un peu l'expérience rêvée finalement. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais rencontré un mec qui avait monté une boîte comme ça, et c'est vrai que t'es arrivé un peu là où l'entrepreneur veut arriver.
Ouais, alors
c'est un beau milestone d'avoir revendu ta boîte comme ça.
Ouais, non, c'est génial. Sincèrement, c'est génial, effectivement. Après, c'est la vision de l'extérieur. C'est-à-dire que quand on regarde de l'extérieur, on a monté cette boîte en 2007, on est allé aux États-Unis, on a grossi de 0 à 500 employés, on a vendu très cher. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est toujours des montagnes russes. Donc, c'est des up and down d'entrepreneurs. Mais oui, je pense que la vraie satisfaction, c'est pas d'avoir vendu, c'est d'avoir, je pense, bien vendu et d'avoir été assez vrai et avec ses employés et ses valeurs. Et tu vois, nous, on n'avait pas le plan de vendre au moment où on a reçu l'offre. Et en fait, ce qui nous a fait vendre, c'est de comprendre que la boîte qui allait nous racheter avait la même culture que la nôtre, avait la même ambition que la nôtre. Et effectivement, ça, je pense que c'est notre plus grande réussite ou ce dont on est le plus fier aujourd'hui.
Parfait. Donc,
au-delà de l'argent, je pense qu'il y a aussi à qui tu vends et la manière dont tu le fais et les promesses que tu tiens ou tiens pas d'ailleurs auprès de tes employés. Ça, je pense que c'est hyper important.
Ok, super. Du coup, l'objectif, ça va être de comprendre comment tu t'es lancé. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là. Donc, si je résume, tu as fait une super école de commerce, HEC, un de plus, mais tu n'as pas attendu d'aller bosser pour te lancer, tu t'es lancé directement en sortie d'école. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que tu as testé un peu l'entrepreneuriat avant de te lancer en sortie d'école comme ça?
Alors, moi j'ai toujours. Moi je suis né déjà dans un petit village qui s'appelle Clé, de 8000 habitants à côté de Grenoble, donc si tu veux. déjà, j'étais très loin de cet environnement d'école de commerce, de fondateur de boîte, start-up à Paris qui a levé des fonds. Mais c'est vrai que depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu cette envie de faire du business ou de faire des affaires. Quand j'étais, moi, je m'en souviens plus, mais ma mère me dit souvent que je vendais des pins, en fait, dans la cour de récréation, quand j'avais 8
ans. Tu les échangeais contre de l'argent ou contre des gâteaux?
Non, contre de l'argent. Okay. C'est vrai que c'est marrant. Et après, quand j'étais en seconde première, je me souviens, on faisait des sessions avec un de mes copains qui savait assembler des ordinateurs et des pièces détachées d'ordinateurs. Et en fait, on voulait monter un site internet, mais c'était au début d'internet, c'était en 99. On voulait créer un site qui permettait de commander des pièces différentes pour créer un ordinateur plus ou moins puissant. Et effectivement, c'est ce qui est devenu Dell. Alors, je dis pas que je suis passé à côté d'Dell, c'est juste que voilà, on avait ce genre d'idée. On s'était jamais lancé. Mais la réalité, c'est que quand je suis j'ai fait effectivement HEC, mais j'aime pas le dire. Enfin, c'est pas que j'aime pas HEC, c'est juste que c'est pas la raison. Il y a trop de gens qui font HEC aujourd'hui et qui montent des boîtes, et je trouve qu'il y a un problème de reproduction de l'élite aussi on pourra en parler dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais bref, moi, quand j'ai fait HEC, j'ai fait une majeure qui s'appelait HEC Entrepreneur. Et donc, du coup, je me suis quand même aussi orienté volontairement vers ce domaine de l'entrepreneuriat. Sachant que HEC Entrepreneur, à l'époque, il y avait très, très peu d'entrepreneurs qui montaient des boîtes à la sortie de HEC Entrepreneur. C'était plus une formation un peu généraliste. Et puis après, derrière, moi, je suis sorti en 2007. C'était encore la période où les McKinsey, les BCG étaient quand même le top job. Et donc, du coup, j'ai fait HEC Entrepreneur. Et la première mission d'HEC Entrepreneur, c'est une mission de création d'entreprise. Et donc, il y a des mentors qui viennent présenter des projets. Donc, on est 80 dans la promo, et il y a 25, 27 mentors. On n'est pas groupe de 3. Et un des mentors, c'était Pierre Kosciusko-Morizet à l'époque.
Ah, sympa.
Parce que lui aussi avait fait HEC Entrepreneur.
T'as pas hérité du coup.
Ouais. Ouais, non, mais j'ai eu de la chance. En fait, tu tires dans un chapeau, en fait, la personne avec qui tu vas être, ton équipe. Et Pierre avait, en fait, amené une idée qui était de créer la poste de demain. Donc, du coup, de créer un portail web dans lequel tu pouvais recevoir tes factures EDF, GDF, France Télécom. Et puis, tu pouvais y accéder via un login password dans un environnement sécurisé. Et moi, je suis tombé avec lui. Et je suis tombé avec deux personnes avec qui j'ai pas continué à bosser parce qu'on s'entendait pas forcément très, très bien. Enfin, c'est même pas un problème de s'entendre bien. C'est qu'on savait qu'on pouvait pas bosser ensemble sur le long terme. Et en fait, à la fin de cette mission, Pierre me dit, si tu veux, moi, je veux bien être dans ton board, t'accompagner, etc. Donc, si tu veux, quand t'es dans cette situation où t'as un entrepreneur qui est très connu, qui est successful, que t'as envie d'entreprendre et que t'as pas d'autre idée, en fait, c'est un peu venu
comme ça,
naturellement. Mais voilà, c'est le début de la galère.
Raconte-nous du coup, là, tu fais cette mission. Souvent, cette mission, ça débouche quoi sur un PowerPoint que tu vas présenter devant des gars, tu vas te faire un peu mousser, super. Ensuite, l'année continue, donc j'imagine que tu le laisses de côté, ou est-ce que pendant l'année, tu continues à essayer de le développer, avoir les premiers clients? Comment tu t'en sors?
Non, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai proposé à trois copains promo d'HEC Entrepreneur pendant une soirée d'ailleurs.
C'est les meilleurs moments pour les convaincre.
C'est pas les meilleurs moments pour prendre des décisions. Non, mais je regrette rien, hein, mais j'ai proposé à trois copains de promo de se lancer avec moi sur cette idée en décembre 2006, je pense, ou janvier 2007, ouais. Et de commencer à y réfléchir. Et en fait, on a fait plusieurs erreurs. La première erreur qu'on a faite, c'est de partir à quatre. Et en fait, c'est pas de partir à quatre, c'est de partir avec
quatre fois la même compétence, c'est ça?
Personnes qui ont la même compétence, qui est pas grand chose. Quand t'es à HEC, en fait, tu t'as pas forcément beaucoup d'expérience, pas d'expertise, il y a pas d'ingénieur, il y a pas de dev, il y avait pas de, et puis nous, en 2007, il y avait peu de boîtes qui se lançaient, hein, donc on était tous les quatre des vendeurs, en gros, des étudiants. Et on se lance à quatre, on sépare le capital en quatre, on n'a pas nommé de CEO au début, hein. Pour nous, on montait une instance de foot. D'ailleurs, on a fait une deuxième erreur très vite, c'est qu'on a pris une coloc ensemble à partir de janvier ou février 2007, tous les quatre. Et donc, Parce que voilà, c'était, il y avait un côté, on monte une assoce entre potes et puis on verra ce qui se passe.
Ouais. Et tu regrettes d'avoir pris cette décision?
Non, je regrette rien. Moi, je suis pas du genre à regretter. De toute façon, je pense que.
Est-ce que tu conseillerais de prendre cette décision à un jeune qui vient et qui te dit exactement ça?
Non, la réponse c'est non. Mais à la question est-ce que tu regrettes? Moi, je pense sincèrement que si on n'avait pas fait ça, on n'en serait pas arrivé là non plus. Donc, si tu veux, il y a toujours. Je pense que monter une boîte, c'est 70% de chance. 30% de boulot et après le reste c'est un peu de talent si tu réussis à monter au-dessus de 100%, mais en gros il y a des étapes, tu les as passées comme ça, ça t'a donné aussi envie de te battre plus parce que t'as eu des problèmes avec tes associés après et qu'il a fallu aller chercher de l'argent. Donc, je suis pas sûr qu'on soit arrivé là où on en est aujourd'hui si on n'a pas vécu ça avec les idées parce que ce qui s'est passé c'est qu'on s'est séparé, donc parce que moi je suis one step forward, mais donc on a commencé comme ça et en fait ça n'a pas marché. Donc on a commencé en 2007. Donc, on s'est vraiment.
Là attends, t'es étudiant, tu t'es mis avec ces trois potes, mais concrètement vous êtes trois commerciaux et là l'idée c'est de faire quatre commerciaux. L'idée c'est de faire la poste de demain, enfin de faire un portail web avec probablement pas mal de développement à faire. Qui fait le produit?
Alors ce que j'allais t'expliquer. Donc en juin. En mai, on a une dernière mission d'HEC entrepreneur qui est créer sa propre boîte. Donc, on décide de se lancer sur ce projet-là et en fait, tous les quatre de faire cette mission ensemble. Donc, on fait encore, on repart sur ces idées-là. Et en fait, à la fin de l'année, on se dit bon bah, est-ce qu'on y va ou pas? Il faut qu'on prenne une décision de vraiment créer la boîte. Et en fait, à cette époque-là, on se dit il nous manque un petit truc pour y aller. Il nous manque des développeurs. Et où il nous manque d'avoir, tu vois, d'avoir soit un peu d'argent pour payer une agence de dev. Et en fait, on part en voyage de désinté. Donc, c'est le voyage de fin d'année. Hein. Et on était 81. Et en fait, on part à Majorque. On se retrouve à 81 dans un avion. Et je sais pas ce qui s'est passé avec ma place. Je me suis retrouvé devant à côté d'une famille et tous les autres se sont retrouvés derrière, dans l'avion derrière.
Pas de bol.
Pas de bol. Mais en fait, encore une fois, tu vois, je m'assois à côté d'un mec. Il a un bouquin avec un serpent dessus. Et je sais pas ce qu'il m'a. Je lui demande s'il aime les serpents. Et en fait, le bouquin s'appelait Python et moi, je connaissais rien en code. Et en fait, il s'avère que le mec, en fait, lisait un bouquin de Python qui est un langage informatique. Et donc, on commence à parler. Et ce mec-là est devenu notre premier CTO. Et donc, en fait, si tu veux, tout ça est une chance. Enfin, tout ça est un enchaînement d'opportunités et de coups de chance. Donc, ce mec, donc, il s'appelle Patrick Gilbert. On descend de l'avion. Il me donne son numéro. On le rappelle quand on revient de voyage de désinté. Et ce mec-là nous dit, écoutez, moi je veux bien vous rejoindre, mais je veux pas être votre CTO, je vais recruter mon CTO. Donc il recrute, il prend un CTO. Et là on se dit, bon, bah, va falloir qu'on les paye. Donc on lève 500 000 euros à ce moment-là. On a eu une deuxième coup de chance, c'est que Sarkozy est devenu président de la République et a fait voter la loi TEPA.
Ouais.
Et qui permettait de défiscaliser 75% de l'ISF.
Donc là, t'as rien, t'as une idée de faire une plateforme où tu reçois ton courrier par mail, en gros, si je dis pas de bêtises.
Pas par mail, dans une boîte, dans un coffre-fort électronique.
Dans un coffre.
Ça va être important pour la suite.
Sur une plateforme, il y a toi, tes trois autres gars encore qui sont là, plus ce fameux Patrick que tu as rencontré dans un avion, et sans rien, sans avoir le début d'un produit ou d'une preuve de traction ou de quoi que ce soit, vous levez 500 000.
Ouais, alors, oui. Le truc, c'est que c'est plus possible aujourd'hui. Donc, on était dans une phase en 2007 où. Il y avait tout un aspect de défiscalisation qui est important, où nous on a fait appel à nos maîtres de stage, nos anciens maîtres de stage avec qui ça s'était plutôt bien passé. Mais effectivement, on a eu encore une fois, c'est une autre chance. On a réussi très rapidement en fait à lever 500 000 euros.
Mais tu leur vendais quoi? Tu leur vendais quoi dans le slide deck? Tu disais ça, juste ce concept-là et milestone, on est nulle part, mais ça va arriver vite.
Ouais, je pense que c'est des gens qui ont parié sur nous plutôt que sur l'idée. Alors, au final, ça leur a donné raison parce qu'il y a des gens qui ont fait x100, quoi. Mais effectivement, à l'époque, on levait ça. Après, on levait sur une valeur de 2 millions, tu vois. Donc c'était. Mais bon, ouais, c'est ce qui s'est passé en septembre 2007. On lève 500 000 euros à 4 avec plus, ça. Et donc ça nous permet d'avoir cette.
Et si c'est pas un
premier développeur.
Combien vous l'avez donné à Patrick et combien vous aviez entre associés? Vous avez fait quoi? Un cinquième chacun?
On avait 25% chacun. On avait 25% chacun. Et je me souviens plus combien on leur avait donné à chacun. Sachant que eux sont pas. On les a. Parce que. Bon, c'est ce que je raconterai après, mais. Mais dans l'histoire d'une boîte, il y a des moments, enfin, il y a, si tu veux, quand tu commences, forcément, les gens du début sont pas les gens qui resteront jusqu'au bout. Et ces gens-là, enfin, Patrick et les deux autres développeurs qu'on a au début, 2 ans après, on a dû les remplacer et remplacer l'équipe. Mais parce que, pour plein de raisons, parce que nous, déjà, on n'avait pas la compétence pour recruter des devs. On savait pas, en fait, on connaissait pas, on leur a pas fait passer de test, en fait. Ils nous parlaient juste de Python, on était impressionnés. Donc ils ont commencé comme ça. Et en fait, ça, c'est une deuxième, moi, j'ai eu à gérer pas mal de séparations, notamment avec les deux associés, au début, on va y revenir, avec ces 3 premiers employés. Enfin, pas mal, d'ailleurs, juste simplement ces deux moments qui ont été difficiles. Mais les développeurs n'ont pas gardé l'ensemble, enfin, si ils ont vendu au moment où ils sont partis. On leur a racheté leur part. Ça, c'est un autre point que je conseille, c'est que le capital, c'est clé, en fait. Le capital, ça vaut plus cher que le cash. Okay. Ça a beaucoup plus de valeur, même si on s'en rend pas compte au début d'une boîte. Quand quelqu'un part, je pense qu'il faut essayer à tout prix de leur racheter leur part. Et ça doit faire partie du négo. Mais voilà. Donc là, on est à 2007, on a 3 devs qui ont 45, 50 et 38, je crois. Et nous, on a 24 ans. Et on connaît rien en dev. On n'a jamais monté de boîte. Et il faut qu'on se lance. Et là, c'est très compliqué parce que gérer les gens qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont plus âgés que nous et qui font, par définition, un métier qu'on comprend pas, c'est assez...
L'équivalent, je sais pas, du CPO? Qui c'est qui va dire le produit, ça va être ça, qui va un peu designer les fonctionnalités, tout ça? C'est Patrick, ouais, qui est un dev, du coup, pur, ou c'est...
Non, c'est Clément. Donc, Clément, qui était un de nos fondeurs, enfin, qui est mon co-fondeur aujourd'hui, qui lui prend ce rôle, très rapidement. Et donc, qui commence à devenir le CPO, et en fait, le CTO, CPO, CTO de la boîte, okay, et le CEO, en fait.
Et c'était qui la CEO?
C'est lui qui commence à... Alors, à l'origine, nous, on vendait, mais ça, c'est, on n'était pas rendu compte, hein. On devait vendre aux grands émetteurs de courrier. Parce que notre business model, c'était de se dire, on va aller voir EDF, GDF, France Télécom, et on va leur demander de nous donner accès à leurs API et de nous, si tu veux, nous envoyer les factures qu'à l'époque, ils envoyaient sur un papier à leurs clients. Donc, l'idée, c'était de dire, on va créer ce coffre-fort électronique, on va aller convaincre les citoyens français d'adhérer à ce service gratuitement. Mais du coup, on va demander aux émetteurs de nous payer à chaque facture ou chaque bulletin de salaire ou chaque relevé bancaire envoyé dans ce coffre-fort, parce qu'on leur fait faire des économies par rapport au format papier. Donc, ce business model était sur le papier hyper, hyper sexy, parce que EDF envoie 26 millions de documents par mois. Fais juste un petit calcul, même si tu factures 10 centimes le document, tu peux faire beaucoup de chiffre d'affaires très rapidement. Donc, c'était un peu, voilà, c'était ce business model. Donc, nous, il fallait qu'on aille vendre des EDF, GDF, France Télécom. Et on avait encore une fois 24 ans, pas d'expérience, pas de tech, pas d'argent. Donc, et en plus, avec un compétiteur qui était La Poste en face de nous, qui faisait 20 milliards de chiffre d'affaires, 350 000 employés, et qui, en fait, finalement, a 100% des clients français, enfin, 100% des entreprises clientes. Donc on a commencé comme ça à essayer d'aller démarcher ces gros, et on a en un an et demi signé 0 client. Enfin si, on a signé 2 clients. On a signé Ten Mobile qui a été racheté par Orange juste après qu'on ait signé une aide d'intention, et on a signé Poweo qui je pense a jamais eu plus de 300 clients. Donc
ok. Donc, pendant un an et demi, d'un côté, tu as l'équipe produit qui va essayer de développer un produit, mais finalement, il n'y a pas vraiment de clients, donc vous avez peut-être du mal à challenger les fonctionnalités. Et de l'autre côté, il y a donc les 3 autres associés dont tu fais partie qui essayent de vendre le truc à des très grands groupes comme Orange, etc.
Exactement. Et ça ne marche pas.
Ok.
Et ça ne marche pas.
Pendant un an et demi, vous, entre guillemets, cramez les 500 000 que vous avez levés, il part où l'argent? À part dans les 3 dettes.
Oui, il part dans les salaires. Hein. Okay. Il part dans les salaires des 3 mecs. On a recruté, je pense, 2 autres personnes, si je me souviens bien. Ça part vite. Hein. Donc,
vous payez, vous?
Et en fait, on se payait le SMIC. Moi, j'ai gagné le SMIC pendant 5 ans, je pense, 4 ans.
Okay.
Et en plus, à ce moment-là, La Poste vient nous voir et essaie de nous racheter. Et tu vois, c'est là où je me rends compte qu'on était un peu fou. Ils disaient, nous l'ont racheté pour, je crois, 10 millions d'euros à l'époque. Ce qui faisait quand même 2,5 millions chacun à 25 ans. Tu pouvais être pas mal. Et on a dit non.
Et on a dit non et on continuait à... Ils ont essayé de vous racheter alors qu'il n'y avait pas encore de produits qu'ils ont testé.
Ouais, ouais, bah.
Ok.
Parce qu'ils croyaient au fait qu'on pouvait potentiellement signer et construire... Mais il y avait un produit... Enfin, toujours le même problème. Hein, c'est, oui, on avait un site web, quoi. Mais effectivement, on ne l'avait jamais testé. On ne savait pas si on pouvait vraiment accueillir 26 millions de factures d'EDF, etc. Mais... Donc ouais, donc ça a été très difficile à ce moment-là et c'est pour ça qu'au bout d'un an et demi, en fin 2000, non, début 2009 je pense, j'ai plus les dates exactes, ben là on se dit en fait on peut pas continuer à 4. Non, excuse-moi, juste avant on rencontre la DRH d'M6 qui nous dit en fait ce que vous voulez faire au niveau national, il y a quand même un truc à faire au niveau des entreprises et au niveau des directions des ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, on envoie les bulletins de salaire sous format papier dans 100% des entreprises en France. Et grâce à votre service, on pourrait les envoyer sous format électronique.
Et comment tu t'es retrouvé face à cette directrice d'M6 si toi, ce que tu visais, c'était les gros telco et la poste et tout ça?
Parce qu'elle était aussi directrice de, elle était directrice de l'organisation et donc de la facturation. Et que M6 envoyait à l'époque des factures, je ne sais plus pourquoi, pour Téléshopping ou pour M6 Web.
Okay.
Et du coup, on s'était retrouvé dans un meeting avec elle. Et c'est là où elle nous a donné cette idée, cette opportunité. Et on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. Et c'est comme ça qu'on a pivoté en fait sur le monde des, dans le monde des RH en essayant de commencer à dématérialiser les bulletins de salaire.
Et cette décision tu la prends parce que ça fait un an et demi que t'as quasiment rien vendu quoi, en un an et demi. T'as failli juste, en fait le seul truc que t'as failli vendre c'est la boîte à défaut de contrat.
On n'a pas réfléchi.
Et donc là, comment vous prenez cette décision de faire ce pivot? C'est juste basé sur cette discussion là avec cette meuf là ou comment vous faites?
C'est basé sur un an et demi d'échecs aussi, hein, quand même, pas de galère parce qu'on s'en rendait pas compte, mais sur de non-vente, de non-vente. Attends, excuse-moi. C'est basé, ouais, de non-vente pendant un an et demi. Et puis on s'est rendu compte que, en fait, si tu veux, nous, on n'a jamais été employé, donc on n'a jamais reçu de bulletin de salaire, donc on connaissait pas notre marché. On s'est aussi rendu compte, en fait, que les émetteurs ne voudraient pas mettre en œuvre notre idée, mais pour plein de raisons. Et la première raison, c'était parce que une fois que tu dématérialises la facture, t'as plus de lien avec ton client dans un monde dématérialisé. Donc si tu veux, tu déportes finalement, tu confies la gestion de ta relation client à un tiers. Donc, était Nova Post à l'époque, ça s'appelait Nova Post. Donc, ça ne marcherait jamais. Donc, on s'est dit de toutes les manières, soit on arrête, soit on continue, mais sur un nouveau modèle, et on peut pas y aller à 4 parce que ça marche pas.
Et il y a pas de tension dans votre équipe? Un an et demi sans vendre, j'imagine que il y a commencé à avoir des tensions. Toi ou l'autre qui essaye de dire comment faire ton boulot, de te micromanager un peu pour comprendre pourquoi ça marche pas. Comment ça se passe?
On n'avait pas d'ego là-dessus. Encore une fois, il n'y en avait pas un qui avait déjà un succès derrière lui ou qui avait réussi quelque chose. Donc du coup, si tu veux, il n'y avait pas de souci là-dessus. Non, mais par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait vraiment qu'on soit plus que deux. Parce que pour prendre des décisions, c'était plus facile. Parce que en termes de capital, il fallait que. Enfin non, même pas en termes de capital, parce que c'est pas vrai. Je te raconterai après. Mais du coup. C'était évident pour nous qu'il fallait être plus que deux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y en a un qui est parti parce que il avait ça en tête depuis le début de cette manière de rejoindre la boîte familiale. Donc, il n'y a pas eu de problème. Il est parti.
Comment tu le rachètes ses parts à lui? Parce que t'as failli vendre la boîte 10 millions, il aurait dû prendre 2 millions et demi. Finalement, vous vendez pas. J'imagine que t'as clairement pas le cash de lui racheter ça à 2 millions. Comment tu fais pour le faire sortir proprement?
À l'origine, on s'était pas dit qu'il fallait qu'on les fasse sortir. Okay. En fait, à l'origine, on se disait il faut qu'on demande à un d'entre eux de partir et à l'autre parte. Enfin, vous voulez bien partir. Et en fait, là, on s'est retrouvé dans une problématique qui est que on devait faire entrer un fonds d'investissement en 2010 et que le fonds voulait pas rentrer s'il y avait deux actionnaires dormants aussi gros dans le capital. Donc, on a dû les convaincre, en fait, de vendre la moitié de leur part.
Ouais.
à ce moment-là pour pouvoir. Ça n'a pas été hyper facile, mais bon.
Et donc, pareil, le fonds, il investit chez vous avant qu'il y ait des clients. C'est juste, voilà, on a développé cette petite techno finalement qui n'est pas si mal et qu'on pense qu'on va pouvoir mettre au profit des RH des entreprises. Et sur cette vision-là, pareil, sans avoir de preuves que tu es capable de délivrer la vente ou le produit tout court à des clients, tu relèves des fonds, c'est ça?
Alors, ouais, c'est pas enfin, en 2009, on a signé deux clients. On a signé M6 et Ubisoft, mais je pense qu'on devait faire 1000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ça, c'était n'importe quoi. Et on a levé 1,7 million avec Alven. Et en fait, c'est là où tu vois qu'Alven est quand même un fonds incroyable. C'est qu'en 2010, alors qu'on fait 1000 euros de chiffre d'affaires, les mecs croient en nous et rachètent les actionnaires, rachètent la moitié des deux fondateurs, mettent 1,7 million. Et on commence la vraie aventure là.
Et raconte-moi rapidement ta levée, donc, parce que comment est-ce que tu gères ton temps entre parler à des clients, parce que j'imagine que là tu as vendu M6, même si ça fait que 1000 euros, tu vois quand même qu'il y a un océan de possibilités avec toutes ces entreprises que tu peux signer, versus le temps que tu vas passer avec les fonds, parce que ça se fait pas en deux jours non plus une levée. Donc comment est-ce que là vous gérez votre temps, qui fait quoi?
Ouais, je sais pas si je vais prendre celle-ci. Bon, nous on a levé beaucoup, hein, on a levé 5 fois. Donc c'est une expérience qu'on a vécue plusieurs fois et c'est moi qui l'ai gérée. Moi je pense qu'il faut comprendre que quand tu lèves des fonds, tu es à 100% sur la levée de fonds et tu lâches l'opérationnel. Donc forcément tu retardes ta boîte, tu retardes tes ventes, à moins que tu aies une équipe déjà structurée. Mais bon, après, ça a changé, je pense, aujourd'hui, parce que les levées de fonds vont beaucoup plus rapidement, vont beaucoup plus vite. C'est possible de lancer, tu vois, des POC assez rapidement. Les grosses boîtes te font plus confiance aujourd'hui. Et donc, ça a complètement changé. Nous, il faut se rappeler, on est en 2008, il n'y a aucune grosse boîte qui travaille avec des startups.
Okay.
C'est un tabou de travailler avec une startup. Et donc, du coup, c'était quand même assez compliqué. Mais il a fallu tout faire en même temps. Et je me rappelle le jour où Alven a investi. Je suis rentré chez moi. Il nous restait, je pense, une semaine de cash ou deux semaines de cash. Et je me suis allongé avec ma femme dans l'appart et je sais pas, pendant 5 minutes, on a regardé en l'air en soufflant, en se disant,
on n'est pas passé loin.
Ça y est, quoi. on est vraiment pas passé loin. C'était dur. Hein. C'était le moment où personne voulait nous, personne voulait investir chez nous. Je me rappelle Jean-David Chamboredon qui voulait pas investir chez nous et qui croyait pas au modèle. D'ailleurs, on est dans son petit portfolio et on en parle souvent maintenant ensemble. Mais je le comprends parce que moi, je suis pas sûr que j'aurais investi dans ma boîte en 2010 okay. À ce moment-là.
Et donc là, en 2010, t'arrives à convaincre finalement les deux autres associés, enfin deux associés de partir, un qui voulait et l'autre que. Comment t'arrives à convaincre l'autre?
Ah, c'est compliqué, on l'a pas convaincu. En fait, le truc c'est que tu peux pas rester dans une boîte où les deux autres te demandent ou les trois autres te demandent de te dire qu'il faut partir parce que. Mais en fait, c'était même pas pour des questions de compétences. Souvent, on savait pas faire plus l'un que l'autre. La seule raison pour laquelle il fallait qu'il en reste plus que deux et tout le monde était d'accord là-dessus. Donc il y en avait de toute façon un qui allait être mécontent. C'est tombé sur lui parce que on était tous les deux commerciaux. Et que Clément était plus product et que derrière Clément voulait plus bosser avec moi que bosser avec l'autre et ça s'est fait comme ça et c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui étais
okay.
Bon, y a pas de raison, j'étais pas meilleur que lui ou quoi que ce soit, c'est juste que ça s'est fait comme ça. Maintenant effectivement en termes d'ego c'est compliqué, en termes de et ça a été dur de le dire, ça a été dur de négocier, ça a été dur parce que c'était une phase assez compliquée dans la vie de la boîte, pour moi aussi, pour Clément aussi, pour Julien aussi, parce que comme on est resté en très bon terme avec lui, il a participé à tout ça aussi. Donc, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Il faut prendre ce genre de décision parfois. Je pense qu'il faut le faire plus sooner than later, parce que ça c'est vraiment un truc qui peut pourrir ta boîte et les relations avec tes employés aussi. Donc, il faut vraiment bien choisir ses associés. Je pense que monter une boîte avec un pote, c'est pas un problème. Monter une boîte avec un mec qui a exactement les mêmes compétences que toi, c'est hyper compliqué.
Ok. Donc là, tu arrives à recréer la dream, à créer la bonne équipe. Donc, vous êtes deux maintenant cofondateurs opérationnels dans la boîte. avec 1,5 million de levée, qu'est-ce que vous faites? Tu fais quoi en day one? Donc, tu as dit, tu t'es allongé avec ta femme, tu as soufflé. Deux semaines après, l'argent, il est sur le compte. Tu fais quoi?
Bah, c'est une bonne question parce qu'en plus, nous, on était encore une fois à une époque où il n'y avait pas de boîte SaaS. Franchement, les boîtes SaaS, en 2008, si tu regardes, qui c'est, il y en a trois, quoi. Il y a multiposting. Je sais même pas qui. Ouais, c'est tout, quoi. Donc, on n'a pas de playbook. C'est compliqué, tu vois. On peut pas aller voir d'autres founders. On peut pas, les fonds d'investissement ne savent pas très bien comment ça, on fait. Donc, tu prends,
il peut y avoir des modèles aux US, non?
Mais on connaissait, mais encore une fois, tu vois, aujourd'hui, on pense aux US. En 2008, les US, c'est un autre monde.
Okay.
C'est même pas un monde qu'on regarde. C'est un monde mais on n'a même pas l'idée de regarder aux US. Et donc, du coup, on prend notre bâton de pèlerin et on va chercher le premier client, quoi. Et donc, du coup, on recrute une nana au marketing qui avait 23 ans. Tu vois, on a fait toutes les erreurs possibles, imaginables, qui faisait des, on allait dans des salons. Les salons nous ont beaucoup servi, les salons professionnels, tu vois, des RH, les salons RH. On faisait tout à la main pour l'instant, alors qu'il y avait des gros acteurs à côté qui avaient leurs prestataires, etc. Donc on arrivait le matin, on avait des petites boules en verre qu'on mettait dans les trucs. Non, mais on a fait tout hyper manuellement. Et en fait, on a au fur et à mesure, on a appris et on a mis en place une équipe commerciale assez vite, mais en fait qui marchait pas. Et qui ne marchait pas parce que moi, je ne savais pas gérer les sales. Et en fait, si c'était à refaire aujourd'hui, si tu veux, je prendrais des mecs ultra expérimentés qui l'ont déjà fait. Je prendrais un VP sales. En fait, et c'est ce que je dis à toutes mes participations, parce qu'aujourd'hui, on a un fonds et on investit, mais c'est ne lésinez pas sur l'investissement sur les gens. En fait, en gros, si vous voulez réussir, il faut prendre des mecs bons, chers, et qui iront vite. C'est-à-dire que dans une startup, on a de l'argent, des idées, mais on n'a pas de temps. Donc du coup, les temps de formation sont très compliqués dans une startup. Je pense qu'il faut aller chercher des gens qui sont déjà formés, qui sont formés dans des grands groupes ou dans d'autres startups, et accélérer comme ça. Et pas avoir, je pense, mettre 20 000 euros de moins sur un salaire, ça se retourne contre nous très rapidement.
Okay.
Comme les avocats. Tu vois, nous, on avait pris un mauvais avocat au début pour rédiger notre pacte d'actionnaires. Ça s'est retourné contre nous. On avait un bad liver de 2 ans au lieu d'en avoir un de 4 ans. On avait rien mis dans le pacte. Et ça, parce qu'on voulait faire des économies. Et donc, du coup, je pense qu'il faut vraiment, si on monte une boîte, il faut vraiment viser loin. Il faut déjà voir. C'est très difficile, mais tu vois, il faut comprendre que par chance, ça peut arriver de vendre sa boîte 300 millions de dollars ou 1 milliard de dollars. Et donc, du coup, il faut préparer tout ça à ce moment-là, au début,
plutôt que de le faire. Mais t'as pas peur qu'à l'inverse, justement, il y ait beaucoup. Moi, j'en vois des gens qui se prennent trop tôt la thèse sur des problèmes alors qu'ils n'ont pas encore de chiffre d'affaires. De dire, on va passer 3 jours à travailler notre pack d'actionnaires alors que pour l'instant, la boîte, on n'a même pas une proposition de valeur qui tient la route. Est-ce que c'est pas faire mettre la charrue avant les bœufs?
Non, je pense que ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que moi, je suis très simple. Hein. C'est-à-dire que tous les mecs qui font trucs toutes les semaines, 2 jours par semaine, entre associés pour savoir quelle est la stratégie de la boîte, etc., ça me gonfle. Je pense qu'il faut que les boîtes aient des stratégies très simples, des buts très simples, enfin, des objectifs très simples à différents moments de la boîte. Maintenant, tout ce qui est juridique, tout ce qui est encadre les relations entre tes actionnaires, entre tes partenaires, etc., il faut que ce soit hyper carré. Ça, je pense que c'est ultra, ultra important. Maintenant, nous, tu vois, par exemple, le premier objectif de notre boîte, c'était d'avoir 10 clients. Mais c'est tout. On n'avait pas d'autres objectifs. Alors, je vois des mecs qui disent, il faut qu'on trouve, je sais pas quoi, le premier client qui fasse ça, et puis après l'autre. Non, nous, on avait 10 clients et on verra après.
Et t'avais...
On se met en ordre de marche pour...
Et t'avais pas une petite vision long terme? Parce que souvent, on dit, dans la startup, t'as le court terme et le long terme. Le long terme qui va motiver tes actions et tes prises de décision à court terme, mais il n'y a pas de moyen terme. Toi, t'étais, à ce moment-là, t'avais même pas de long terme. C'était, on signe. 10 clients et on voit après.
Ouais, nous on avait, alors bon, après c'est pas génial, hein, mais à l'origine on n'avait pas vraiment, nous on a monté le bulletin de salaire électronique, on a fini par être une boîte de global leader dans le HR service delivery, c'est-à-dire du case management, du document management, de la signature électronique. À aucun moment on s'est levé et on s'est dit on va devenir ça. En fait, c'est venu au fur et à mesure. Alors, je dis pas que c'est bien, je dis juste que je pense qu'on peut y aller étape par étape. Et que c'est trop compliqué en fait d'avoir pense qu'il faut être pragmatique, quoi. Il faut simplifier au maximum ces processus, simplifier au maximum sa vision pour éviter la friction et éviter le bruit autour de nous, parce qu'on perd tellement de temps à faire tout ça que on en perd finalement l'essentiel qui est de remplir son premier but, c'est d'aller chercher des clients et de développer un beau produit, quoi.
Donc revenons à nos moutons. Tu lèves ces fonds. Qu'est-ce que tu fais le premier jour en sachant qu'il n'y a pas de playbook? Comment tu t'en sors? Quelles erreurs tu fais?
Mais franchement, on les a toutes faites, je pense. Tu vois, moi, c'est pour te dire, j'avais pas de commission plan. Et j'avais pas des. Mon premier sales que je recrute, c'est devenu mon patron du produit. Donc, c'est. Okay. Donc, c'est. Si j'ai recruté juste le. Pas le bon sales. J'ai recruté. Alors, une erreur que j'ai faite direct, c'est que j'ai recruté un mec. Parce que j'étais impressionné. J'ai recruté le DG d'une boîte en paye. Je me suis dit, lui, il va me structurer mon équipe commerciale, il va me structurer ma strat. Et en fait, ça s'est avéré être une connerie parce que j'ai recruté un mec qui n'était pas du tout hands-on,
ouais.
Qui était beaucoup plus exec et qui avait juste une envie, c'était de devenir patron, quoi. Et ça, c'est souvent beaucoup de startups font cette erreur d'être, tu vois, d'être impressionné par des mecs avec des profils un peu, je vais dire un peu fou, mais un peu shiny, quoi. Et en fait, ça s'est très mal fini au bout d'un an et demi, tu vois, on a dû se séparer. J'ai recruté les sales au fur et à mesure. On a tâté le terrain.
Mais là, au début, quand tu les as levés ces fonds et que t'as que deux clients, c'est toi qui vas faire les sales, non? Ou tu recrutes un.
Voilà, exactement.
Tu peux pas lui apprendre alors que t'as pas encore craqué le sujet.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est moi, en fait, qui, pendant encore 2 ans après, 3 ans, c'est moi qui faisais les sales. C'est moi qui étais à tous les meetings, c'est moi qui étais avec mes salariés. Mais nous, en fait, on a beaucoup appris sur les process et sur la gestion d'une équipe commerciale quand on a recruté notre premier VP sales en France et quand je suis parti aux États-Unis, en fait. Si tu veux, en 2013, et c'est le moment où on a recruté notre premier VP sales en France, le vrai VP sales, et c'est le moment où je suis parti aux États-Unis. Et en fait, c'est le moment où j'ai découvert ce que c'était de gérer une équipe commerciale, de mettre en place des outils marketing, de mettre en place une équipe marketing, de recruter des pre-sales, de recruter des content marketers, tu vois. En fait, jusque 2013, j'ai envie de dire, on était complètement des artisans de la startup. Et d'ailleurs, ça s'est vu parce qu'entre 2007 et 2013, je crois qu'on est passé de 0 à 2 millions d'ARR.
Ok.
Un truc comme ça. Entre 2013 et 2017, on a dû faire de 3 à 10. Et ensuite, de 2017 à 2020, on est passé de 10 à 4, ouais, 75, quoi. Ouais, 80, 80, je pense qu'on va passer 100 sur 2020.
D'accord. Et raconte-moi tes premiers rendez-vous de sales que tu fais là quand t'as décidé, donc post-levé, tu sais que voilà, tu as un produit à vendre au RH. Deux questions. Un, comment est-ce que tu chopes les rendez-vous? Est-ce que tu as mis en place de l'automatisation d'emailing ou je sais pas quoi? Et deux, comment raconte-nous les rendez-vous sales, comment ça se passe?
Ouais. Encore une fois, on était dans une période qui était quand même très différente d'aujourd'hui. Donc non, on n'avait pas d'automatisation, tu vois, on n'avait même pas le Salesforce. On a mis Salesforce 2 ans après. Mais en fait, nous, ce qu'on cherchait, c'était nos 10 premiers clients et donc nos 10 premiers ambassadeurs. Donc en fait, on n'était pas en train de chercher de l'argent, on était en train de chercher des gens avec qui, sur qui on pouvait communiquer, qui pouvaient en fait nous aider à vendre autour de nous. Donc on avait vraiment cet objectif de trouver des marques, de trouver des sponsors en fait au sein des boîtes qui allaient plus croire en nous et en l'aventure qu'en croire en le produit. C'était vraiment et d'ailleurs je pense que c'est une bonne stratégie aujourd'hui encore, c'est d'essayer de trouver ce que j'appelle des clients ambassadeurs qui vont avoir la première année gratuite, la deuxième année, je m'en fous. Enfin, en fait, tu t'en fous parce que cet investissement-là, il est énorme. Enfin, ce marketing, ces coûts marketing, ces bénéfices marketing sont énormes par rapport au coût ou au discount que tu vas leur donner. Et en fait, c'est des gens, je pense, qui, au fond d'eux, avaient envie d'être entrepreneurs ne pouvaient pas le faire. Et donc, du coup, ils se sont dit, c'est une bonne manière pour nous de rejoindre une aventure entrepreneuriale. Tu vois, c'était Canal+, Ubisoft, Bouygues Télécom. Et donc, on a réussi à signer des marques. Quand même, on avait 25 ans, on devait dématérialiser les bulletins de salaire. Donc, c'est quand même le document le plus sensible dans une boîte.
Comment t'avais le rendez-vous avec le mec?
Ah, ça, franchement, je passais mes journées à faire du calling.
Ah!
Journée.
Raconte-nous alors des petites histoires, des petites anecdotes de calling que t'as faites. Alors, comment tu chopais les numéros? T'as acheté des annuaires?
Ouais, ça, on a acheté des bases de données.
Et tu les as achetées où? Si moi, demain, je vais acheter une base de données, je vais où?
Nous, on a. Je suppose. On travaillait avec ZoomInfo, je crois, ou avec. Non, je me souviens plus s'il y a 12 ans. Je me souviens plus quelle boîte.
Mais donc, tu bossais avec une boîte qui te donnait des bases de données moyennant paiement.
Ouais, ouais, on achetait des bases de données comme aujourd'hui, tu peux acheter sur ZoomInfo, data.com, etc.
Okay.
Et on passait notre journée à passer des coups de téléphone. Vraiment, et sur LinkedIn.
Il y avait LinkedIn à l'époque, c'était développé, tout le monde était sur LinkedIn déjà?
Ouais, tout le monde était déjà sur LinkedIn.
Et donc, à quoi ça ressemblait un cold calling de Jonathan Benhamou si moi je suis chez Canal+, et que tu chopes mon numéro?
Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à, je pense, n'importe quel cold calling d'aujourd'hui dans l'inside sales. Hein. On n'était rien d'autre que des inside sales à l'époque, c'est-à-dire... Bonjour, vous envoyez vos bulletins de salaire sur un papier. Ben, moi, je pense que déjà, il faut commencer par connaître la personne. Le vrai truc, c'est d'essayer de se renseigner au maximum sur la personne pour que quand tu l'as au téléphone, elle se sente rassurée sur le fait que tu connais un petit truc sur elle qui va lancer la conversation. Donc, la DRH de Canal+, c'est bonjour, madame. J'ai vu que vous veniez de lancer une opération de développement durable.
Ok.
Et donc, du coup, c'est intéressant parce que nous sommes des entrepreneurs qui ont lancé une société il y a très peu de temps. Donc, jouer un peu sur la corde sensible aussi on est des jeunes entrepreneurs. Et on peut vous faire gagner de l'argent. Et en fait, la réalité, c'est que ce qui hook quelqu'un au téléphone, c'est que la personne peut faire soit des économies, soit augmenter son chiffre d'affaires. Donc, nous, on a beaucoup joué sur la recherche d'économies. Parce que envoyer un bulletin de salaire, ça coûtait 1,50€ par la poste. Et qu'avec PeopleDoc, ça coûtait entre 50 et 60 centimes.
Ok.
Et donc, du coup, on faisait gagner beaucoup d'argent à ces boîtes.
Ce qui était cher, au final. 50, 60 centimes, c'est cher pour par rapport à ce que ça représente.
Bah, je sais pas, ça coûte combien un timbre aujourd'hui?
Ouais, c'est ça, en fait. Parce que toi, tu te comparais à un timbre, mais pas au coût d'un mail, par exemple. Ou d'une plateforme. Non,
on peut pas envoyer son bulletin de salaire par email.
Ah ouais.
Donc, tu te compares à la solution qui est la plus démocratisée aujourd'hui et tu essaies de leur faire gagner de l'argent là-dessus.
Et c'était quoi l'objection la plus classique que tu avais? Il y en avait forcément qui disaient non, mais écoutez, je suis même pas sûr que ce soit légal votre truc, non, ça m'intéresse non. Pas.
Ça, c'était pas non, le principal argument, c'était que vous êtes trop petit. Et ça a duré des années, ça a duré jusque 2014-2015, parce que avant qu'on lève des gros tours, les gens avaient peur. Parce que nous, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on envoie les bulletins de salaire, il faut les garder pendant 50 ans. Donc, du coup, il fallait que nous, on ait une garantie.
D'accord. Que tu ne fasses pas faillite. Et si tu fais faillite, tu faisais quoi? Tu répondais quoi à cette question?
Alors, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a passé un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations et qui nous a permis en fait de garantir au travers de la branche en fait d'archivage de data center de la Caisse des dépôts de garantir 50 ans. Donc on a transformé en fait un peu leur business model en demandant de nous garantir un archivage pendant 50 ans et une assurance qu'on pouvait donner à nos clients.
Et donc tu fais ce cold calling, tu arrives à avoir des rendez-vous. Comment ça se passe le rendez-vous? Donc toi tu vends à qui? C'est la DRH, c'est le CEO de la boîte, tu dois monter jusqu'à quel niveau pour réussir à vendre un truc qui est quand même hyper transformant dans une entreprise?
Ouais, mais aujourd'hui, on vend plus la même chose. Hein. On vend beaucoup plus de choses.
À l'époque.
Non, mais si tu vois le CEO, ça marche pas. En fait, moi, je suis revenu... Je pense que tu peux faire du lobby auprès de CEO, mais tu peux pas demander à un CEO de décider de mettre en place, par exemple, un bulletin électronique ou quel que soit. Nous, notre nos contacts, c'était plutôt les directeurs de la paye ou les DRH. pour les convaincre. Mais bon, évidemment, si tu faut que tu fasses du réseau, donc faut que tu ailles dans tous les. Moi, c'est un truc que je détestais, mais il fallait aller dans tous les cocktails, les clubs, les trucs, etc., où tu pouvais rencontrer le DRH, où tu pouvais discuter avec eux, te faire connaître et leur parler de ton service, quoi.
Ok.
Mais et en fait.
Et tu y allais du coup, t'es forcé à y aller à ces petits cocktails?
Moi, j'en ai fait à l'appel, quoi. J'en faisais tout 2 soirs par semaine. Je faisais que ça, et 2-3 soirs par semaine. Mais c'est ce qui nous a permis aussi de paraître plus gros que ce qu'on était. C'est ce qui nous a permis d'être un peu dans tous les journaux, spécialisés ou pas, hein, mais et de faire du buzz, quoi. Et en fait, c'est le buzz qui a fait que aussi les gens avaient envie d'acheter du Goldman.
Et comment t'étais invité à ces trucs? C'est grâce à ton fonds? C'est ton fonds qui te faisait rentrer dans ces soirées-là? C'est le fait d'avoir eu un peu de presse? Comment tu te faisais inviter à ces trucs-là?
Bon, ouais, c'est du réseau. C'est du réseau. Tu sais, le réseau, c'est... Le réseau, ça s'explique pas, hein. C'est des gens que tu rencontres, qui t'envoient un mail, tu vas au premier truc, les mecs t'invitent au deuxième. Et ensuite, tu commences à être un peu connu dans le monde DRH, donc on t'invite comme expert, comme speaker, comme truc, et ensuite, tu rentres dedans, quoi. Et tu deviens une partie du paysage, et tu deviens has-been si t'as pas people lock au bout d'un moment. Et c'est comme ça que le truc prend. Nous, aujourd'hui, en France, on fait plus d'outbound, ou très peu d'outbound. On fait, la plupart de nos,
Donc, outbound, nos, pour expliquer, c'est aller chercher le client, passer un coup de fil, comme t'as fait, envoyer des emails, versus inbound que tu vas nous raconter, qui est le mec vient à toi.
Voilà, exactement. Et aujourd'hui. Donc, juste, on reçoit des téléphones et des, c'est génial. C'est quand t'as un business comme ça, ça te permet d'être quand même bien meilleur.
Donc là, on parle de la partie sales pour finir dessus. Quand tu fais le rendez-vous, comment tu le structures ton rendez-vous? La démo dure combien de temps? Combien de fois de rendez-vous pour signer le mec? Comment tu le signes? Tu lui fais signer un engagement sur plusieurs années? Comment tu gères?
Là, tu parles de début ou
au début, aujourd'hui? Au début.
Ouais. Au début, je sais pas si c'est. Ouais. Au début, c'était quand même très différent d'aujourd'hui. Je pense que c'est pas la bonne méthodologie qu'on a utilisée. Mais en l'occurrence, nous, les cycles de vente à l'origine étaient très très longs. C'est-à-dire que, tu vois, on avait des cycles de vente entre 9 mois et 24 mois. Et encore 9 mois, je suis gentil parce qu'il y en avait pas beaucoup. Parce qu'il fallait créer de la confiance. Donc et puis mine de rien, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez transformationnel. Il y a beaucoup de départements impliqués parce qu'il y a la DSI, la DRH, la sécurité, le truc ça. Donc, mais un meeting, nous on faisait en moyenne entre 4 et 5 meetings
pour signer.
Souvent on était mis en compétition du coup parce qu'il fallait que c'est des budgets assez élevés, donc il fallait que les boîtes puissent justifier d'avoir lancé un appel d'offres. Mais il n'y a pas beaucoup de concurrents, donc La Poste a lancé un service comme celui-ci au début, en 2010-2011. Et voilà, et en fait, on allait avec nos techos, quoi, parce qu'on n'avait pas de pré-sales, et puis au fur et à mesure, on a recruté des sales engineers, quoi, solution consultants chez nous, mais c'est des pré-sales, qui faisaient les démos, parce qu'on a ajouté de plus en plus de produits à notre service, à notre suite. Et c'est devenu de plus en plus complexe, et donc les sales pouvaient plus faire leurs démos, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, un meeting en France, ça dure entre 2 et 3 heures, ce qui est une aberration. Aux États-Unis, ça dure 1 heure max, voire une demi-heure quand les mecs sont très intelligents et n'ont pas beaucoup de temps. Et ça suffit. Mais voilà, en France, c'était des cycles de vente très très longs. Donc, surtout avec les grands groupes, il a fallu qu'on rame un peu au début. Pendant 3 ans. Et au moment où on a eu nos 10 premiers vrais clients.
T'as pris combien de temps, ça, en fait, entre le moment où t'as fait ta levée et le moment où t'as eu les 10?
Ça nous a pris 2 ans, je pense.
2 ans, okay. Ah ouais, donc
je te parle, non, mais d'avoir 10 clients, non, mais d'avoir 10 vrais clients qui pouvaient devenir des références. Parce qu'en fait, le plus important dans un marché comme celui-ci en SaaS, c'est d'avoir des clients référençables. Ça veut dire que si tu peux appeler le client, si le prospect peut appeler un client qui est content, si tu veux, en fait, c'est la meilleure des ventes possibles. Et au début, c'est exactement ce dont tu as besoin quand tu montes ta boîte. C'est d'avoir ces clients qui vont accepter de prendre 3 prospects par mois ou 4 prospects par mois au téléphone pour leur vendre ta boîte. Et ça vaut tous les sales du monde.
Ok. Et comment est-ce que tu t'articulais? Donc là, on a parlé de la vente. Comment est-ce que tu articulais le produit entre-temps? Parce que comment ça se passait pour savoir quelle feature fallait faire? Est-ce que tu faisais tout en fonction des 2-3 clients que tu avais? Est-ce que tu essayais de sentir la température en rendez-vous de vente? Comment est-ce que tu gérais ça?
On développait tout par rapport aux clients. Et encore une fois, c'était aussi une erreur parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de temps à commencer à vraiment s'affranchir des demandes clients. Enfin, pas de s'affranchir, mais au moins de ne pas répondre dans l'instant à des demandes clients. Mais si tu veux, tout le début, toute la première phase de PeopleDoc, c'est-à-dire jusqu'à 2017, je pense, à chaque fois qu'un gros client ou qu'un client demandait une feature, on l'a développée. Et en fait, c'est devenu le bordel parce que du coup, tu n'as pas de roadmap. Tu as une roadmap du Limidia qui en fait met dans la mouise tous tes développeurs parce que tu es obligé de... T'es obligé d'être en réaction plutôt qu'en
action.
Tu vois, en préparation. Et c'était assez. Et on a beaucoup, beaucoup évolué là-dessus. Mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps parce qu'on n'était pas assez fort, quoi. On n'était pas assez fort psychologiquement. On n'était pas assez fort économiquement. Et on n'avait pas le courage de dire non, quoi. Et en fait, au moment où on a commencé à dire non, les grands groupes, on était vraiment devenus une vraie boîte SaaS.
Et du coup, comment tu gérais le CTO? Parce que là, tu parlais de Clément qui était passé CPO, mais à quel moment dans ton développement, tu as trouvé quelqu'un vraiment sur qui te référer et sur qui compter? Alors, sur
Clément
la
est resté jusqu'à la fin.
Ouais, mais
Clément est resté jusqu'à la fin.
Il était CPO, il n'était pas Techos.
Ah, le CTO, tu veux dire?
Ouais, parce que tu as quand même une grosse composante tech. Il faut que tu sois capable de gérer tous les flux que tu vends. Un gros groupe.
Un de nos premiers employés, en fait, on s'est rendu compte que c'était une star et on l'a fait monter avec nous. Et c'était 9 ans qu'il est chez nous. Et il est monté au fur et à mesure. Il est devenu CTO il y a 2 ans, 3 ans, 3 ans, 4 ans. 4 ans. Et donc, du coup, ouais, c'était marrant. On a trouvé quelqu'un chez nous qui a pu devenir ce CTO.
Ok, génial. Donc là, tu fais tes premières ventes, tu montes au bout d'un an et demi à 10 clients. Qu'est-ce qui se passe là? Tu montes tranquillement. C'est quoi les plus grosses galères que tu as à ce moment-là?
Dans la croissance?
Ouais.
En commençant à vendre?
Ouais, c'est ça.
C'est les implémentations. Là, ça devient la mise en place des clients. Et en fait, on n'était pas du tout structuré, on avait personne. Donc, on a recruté un premier employé qui gérait à la fois la mise en place, le CSM, le customer support. Et ça, il l'a fait jusqu'à 50 clients. Et du coup, c'était pas facile. Mais nous, on a une chance. Enfin, on a un chiffre dont on est hyper fier, c'est qu'on n'a jamais perdu de client.
Ouais.
Okay. Dans toute l'histoire de PeopleDoc. Enfin, de notre faute. C'est-à-dire qu'après, comme on est des partenariats, il y a quelques clients qui arrêtent de travailler avec nos partenaires, donc on les perd automatiquement. Mais de fait, sur 2000 clients, on n'a jamais perdu de clients direct.
Comment t'expliques ça?
Moi, j'explique ça parce qu'on est sticky et qu'on a un service gratuit de support qui est hyper, enfin, qui est de bonne qualité, quoi. Et le client, et on a un produit qui est bon. Je peux dire ça de manière très détachée parce que c'est pas moi qui construit le produit. Donc du coup, juste pour revenir, l'implémentation était très compliquée. Une erreur qu'on a faite, c'était qu'on n'a pas recruté de Customer Success Manager assez vite. Et donc en fait, on a laissé une insatisfaction auprès de nos clients qui est devenue trop élevée. Donc le temps de rattraper, ça a été très difficile. Bon, maintenant tout va bien, mais tu vois, en 2013, quand on a recruté notre premier deuxième employé, enfin notre deuxième employé au service. C'était trop tard. Et ça aussi, c'est un investissement qu'il faut faire très vite parce qu'en fait, finalement, garder ses clients, c'est ce qui est le plus important. Et une contre-référence, c'est ce qui peut te détruire sur un marché. Parce que tous tes compétiteurs vont le savoir et ils vont tous envoyer leurs prospects parler à cette contre-référence. Donc, je pense que l'investissement sur les clients est hyper important.
Donc là, tu montes tranquillou. Enfin, tu montes, tu as tous ces problèmes de structuration, d'implémentation, mais tu arrives à t'en sortir côté vente, ça se passe plutôt bien, j'imagine. Tu commences à avoir de plus en plus de bonnes références. Bref, à quel moment tu prends la décision de dire on va se lancer aux US?
Alors, en fait, c'est pas moi qui ai pris. Enfin, je vais te raconter comment ça s'est passé. En fait, du coup, je rencontre Philippe Botteri d'Axel en avril 2013. Et Philippe, c'est un peu une star du SaaS. Et surtout, Axel me faisait rêver en tant qu'entrepreneur. C'était un nom que j'avais envie d'avoir au capital. Mais moi, j'ai jamais pensé aux US. Pour moi, c'était vraiment un truc, c'était loin de moi. Et un jour, il vient dans mon bureau. On passe une heure ensemble. Il me dit, écoute, John, moi, j'adore la boîte. Mais en fait, je veux investir dans des boîtes qui partent aux US et qui ont un potentiel global. Et aujourd'hui, avec votre bulletin de salaire, je ne le vois pas. Et après, on a une autre solution qui était Employee File Management, c'est un document management qui commençait à prendre bien. Il me dit, moi, j'investirais que si tu pars aux États-Unis. Et littéralement, il a fermé la porte, il est parti. Et j'ai pris 4 billets d'avion. Mon associé et nos deux femmes, pour moi, c'est mes deux femmes, et on est parti, et nos deux femmes. Et on est parti aux US en fin avril. On a fait une semaine, 10 jours là-bas. On a pris des rendez-vous avec mon associé pour aller voir ce qui se passait.
À New York.
On a halluciné. Ouais, à New York. C'était la première fois que ma femme allait à New York. C'était la première fois. Enfin, tu vois, je.
Pourquoi tu as choisi New York plutôt que San Francisco ?
Ouais, ça, c'est un autre débat dont on peut parler, mais parce que San Francisco, c'est beaucoup trop loin. Pour gérer une équipe qui est en Europe, c'est impossible. C'est hyper fatigant parce que, en plus, moi, après, je faisais un aller-retour par mois. Je restais une semaine en France et 3 semaines aux États-Unis. C'est hyper fatigant. Tu peux pas gérer une équipe quand t'as 9 heures de décalage horaire. Et troisièmement, en fait, il y a une guerre des talents et à San Francisco, c'est impossible de recruter des gens. Donc, moi, 100%, il faut aller à New York, voire Boston, Philadelphie ou même Austin parce que c'est des secondes villes où c'est plus facile de recruter des gens. Et la qualité de vie est meilleure et la vie est moins chère. Et donc, pour revenir du coup sur. Donc, on part en avril. On fait cette étude, etc. Et là, on rentre, on se dit, écoute, je dis à ma femme, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, écoute, moi, je suis chaud, si tu veux y aller, si tu penses qu'il faut y aller, j'y vais. On avait un enfant d'un an, un de 4 ans, elle était dentiste, elle pouvait pas travailler là-bas. Donc, du coup, il y avait rien qui roulait pour y aller. C'était pas du tout, personnellement, c'était pas le truc le plus génial. On n'avait pas de clients, pas de partenaires, rien. Enfin, moi, je parlais anglais comme une vache espagnole. Et je vais en board meeting fin juin. Et on leur fait une presse en disant aux actionnaires, écoutez, voilà, on pense que ça peut être une bonne idée. Et là, moi, je pensais qu'ils allaient dire, non, c'est trop tôt, etc. Et tout le monde dit, allez, on y va. Et je leur dis, bah, OK, moi, je pars un an. Et on fixe 3 objectifs. Et si on remplit ces 3 objectifs, je reste. Et on essaie de lever les fonds. Et en fait, les trois objectifs, c'était signer 3 clients, recruter un VP Sales et trouver un premier partenaire. Et donc, je pars. J'arrive en novembre. Donc, on s'installe. Bon, je te passe les détails perso, mais on n'avait pas d'école parce qu'on ne savait pas qu'il fallait prendre une école avant. Donc, l'enfer. On découvre que les salaires sont hyper chers, que les loyers sont hyper élevés. Il a fallu qu'on renégocie un peu qu'on renégocie mon salaire, qu'on trouve un appart assez vite, qu'on paye une école privée, ce qu'on n'avait jamais fait. Et en fait, en janvier, je commence à travailler. Et je signe 3 clients très vite. Je signe Jacques Addy et Natixis, qui sont des clients français, c'est très facile. Et je signe Coach, qui est une grosse boîte de maroquinerie en États-Unis. Et tu vois, un contrat au-dessus de 150 000 euros.
Tu les as signés rapido, alors que d'habitude, c'était 9 mois les cycles de sales. 9 à 24.
Ouais, mais du coup, c'est exactement ça. Et donc là, il y a Axel qui me rappelle, il me dit, alors t'en es où? Je dis, bah écoute, j'ai signé 3 clients, j'ai un VP sales qui a l'air pas mal. Et ils me disent, bah écoute, nous, on est chaud pour mettre 17 millions. Ou 17,5 millions de dollars. Moi, ça m'a fait. Enfin, j'y croyais pas. D'ailleurs, mes fonds n'y croyaient pas non plus. Et donc, on lève 17,5 millions.
Que auprès d'Axel.
Et.
Tes fonds français, ils ont remis dessus.
Ouais, bien sûr. Bah, quand t'as Axel qui a remboursé, tu vois, c'est une bonne.
Okay.
C'est une bonne preuve. Et il me dit. Ils me disent. Et Axel me dit, il faut scaler, c'est le moment de scaler aux États-Unis, etc. Et donc, du coup, je recrute 25 personnes aux États-Unis, mais comme je ne savais pas recruter les gens, j'ai recruté que des quiches. Et je commence à scaler. Mais en fait, j'ai scalé, j'ai signé 0 client entre mars 2014, donc quand je venais d'arriver, et mars 2015. Donc, en un an, tous les matins, j'arrive au bureau et je devais avoir un sourire. J'ai eu la bonne idée de mettre un weekly meeting avec toutes mes équipes. Où en fait il n'y avait rien à dire parce qu'il n'y avait pas de clients. Et donc à chaque fois, à la fin de chaque presse, il avait écrit de la part des équipes, chaque patron d'équipe écrivait need more customer, need more customer, need more customer. Et donc du coup, c'était une période assez compliquée à gérer. Et puis en plus, tu vois, t'as un peu une pression du fond qui vient de mettre 17,5 millions. Et là, je me suis rendu compte qu'on avait fait plein d'erreurs en lançant les US. Et on a tout changé. Donc, en fait,
c'est quoi les erreurs?
J'ai déjà un. Ouais. Bah, un, j'ai recruté que des mecs pas trop chers parce que je pensais pouvoir faire des affaires. Tu vas pouvoir recruter des mecs pas trop chers qui allaient être bons. Ce qui est une énorme erreur parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de bargain. Un mec bon, il sait ce qu'il vaut, il vaut ce qu'il vaut. J'avais pris. Au niveau marketing, je m'étais dit que qu'on allait faire du brand awareness, donc de la réputation. Sauf que c'est un marché de 300 millions de personnes qui est 17 fois plus gros que la France. Donc en fait, en termes de business, donc c'est impossible en fait, si tu veux, d'investir assez d'argent pour faire connaître de ton marché. Et donc on ne savait même pas ce que c'était le marketing automation. Donc on n'avait même pas d'outil de marketing automation. Donc là, j'ai viré ma CMO et j'ai recruté une nouvelle CMO qui avait fait que du software et qui nous habite directement dans HubSpot et qui a commencé à mettre en place des campagnes marketing, du field marketing, du content marketing. Ensuite, au niveau sales, je m'étais dit que c'était la même chose qu'en France. Ça veut dire que tu donnes un produit à un sales et puis il peut aller démarcher. Et puis en plus, comme en France, 90% de l'économie est à Paris, c'est facile d'aller autour. Là, en fait, j'avais fait ça et ça ne marche absolument pas. Tu vois, je dis aux sales, restez dans le bureau à New York et allez aux États-Unis vendre un produit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, tu as besoin de trois fois plus de personnes pour vendre. Tu as besoin d'un pre-sales, tu as besoin de personnes qui font du product marketing et tu as besoin d'un sales qui, lui, en fait, prend les rendez-vous, close et maintient la relation, mais qui n'est pas le mec le plus intelligent du process. Quoi. Et ça, je ne l'avais pas fait. Deuxièmement, il faut mettre des process en place, c'est-à-dire dans l'équipe sales, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de mettre en place un process. Ils doivent suivre. En fait, aux États-Unis, il y a les thinkers et les doers. Et tout le monde accepte ça. Donc, il y a des mecs qui pensent et des mecs qui font. Donc, il y a 10% de la population dans une boîte qui va imposer les process et le reste qui va appliquer les process. C'est simple. Quand tu viens dans un resto, il y a un mec qui sert l'eau et un autre qui prend la commande. Ils pourraient tous les deux faire la même chose, mais non. En fait, il y a un process qui est celui-ci. Et ça, je l'avais pas compris. J'avais pas compris aussi la position du CEO aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, t'as quand même un côté très conciliant. Et alors qu'aux États-Unis, le CEO décide, les execs décident, et ensuite les autres appliquent. Donc, CEO, c'est très, très, très. Donc, le matin, tu peux dire un truc, et le soir, c'est déjà fait. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Donc, faut pas parler en l'air, quoi. Aux États-Unis, tu donnes un ordre, tu demandes de faire quelque chose, ça sera fait. Tu peux faire. Donc, c'est beaucoup plus facile de te tromper aux États-Unis, quoi, qu'en France, ou quoi, en Europe. Voilà. Donc, tous ces petits trucs. Donc, en mi-2015, j'ai décidé de virer mon VP Sales, j'en ai trois, hein. J'ai recruté un nouveau VP Sales qui était chez un de nos compétiteurs, qui était un mec génial, qui a viré toute l'équipe Sales, qui a recruté toute une nouvelle équipe Sales. S'il y a une nouvelle CMO, donc j'ai recruté que des execs qui avaient énormément que d'expérience, que je payais très cher. Ça a changé toute la boîte.
Ok. Donc c'est un peu ça la leçon que tu nous donnes, c'est si tu changes de pays et que tu connais pas bien, surtout sur les US, lésine pas sur, mais même de manière générale, c'est ce que tu nous dis en filigrane depuis le début, ne pas lésiner sur le salaire, quoi. C'est le truc,
tu
perdras jamais d'argent à
payer.
Ouais. N'aie pas peur de prendre un mec cher.
Faut pas avoir peur. Ouais, et puis un mec bon. En fait, s'il te remplace, bah, c'est que t'es pas assez bon. Mais tout se joue sur les gens. Tout se joue sur les personnes. Il y a pas de débat. Sur une boîte, quand tu veux réussir, c'est les personnes. Quand tu investis, c'est tu investis sur les personnes. Donc du coup, tu peux avoir le plus pourri produit du monde et les meilleures personnes, tu réussiras. Tu peux avoir le meilleur produit du monde et les personnes moyennes, tu réussiras pas.
Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote marrante, je sais pas, de ces moments aux États-Unis, je sais pas, ton premier rendez-vous sales quand t'avais pas compris comment ça se passait. Enfin, raconte-nous un peu. T'as une petite anecdote croustillante de ce moment-là?
Si on ne sait pas, mais tu vois, par exemple, la première fois que j'étais allé aux États-Unis en avril, là, je m'étais pris plein de meetings et je m'étais pris des plages de 3 heures pour les meetings. Et du coup, bah, finalement, j'ai passé la semaine au Starbucks parce que tous les meetings duraient qu'une heure et je pensais que je faisais chier tout le monde. Parce qu'à chaque fois, on me disait, ah, we are running out of time. Et moi, je leur dis, mais non, mais attendez, on n'a pas fini. Et voilà, j'ai fini au Starbucks pour un peu de trucs. Et en fait, les mecs, juste, je ne savais pas qu'aux États-Unis, les meetings duraient une heure max. Et tu vois, c'est des trucs comme ça où ça te montre aussi pourquoi les États-Unis sont aussi productifs et pourquoi en France on est un peu moins productif. C'est qu'on n'a pas cette notion d'efficacité. Quoi.
Ok. Si aujourd'hui tu devais remonter ta boîte, mettons ça n'existe pas, tu veux redématérialiser les bulletins de paye, etc. aujourd'hui, comment est-ce que tu t'y prendrais?
Bon alors, 100% différemment. Je pense que je skipperais les 5 premières années de galère chez Greylock. Mais vraiment, je pense qu'on a perdu 5 ans. Sincèrement, dans toutes nos terres, tu vois, pas parce qu'on a trop réfléchi, etc., parce que juste on était jeunes, qu'il n'y avait pas d'exemple autour de nous et que du coup qu'on avait à apprendre, quoi. Mais aujourd'hui, encore une fois, je recruterais des mecs beaucoup plus expérimentés tout de suite. Donc, je lèverais de l'argent tout de suite. Je créerais un produit en écoutant le marché au début, mais ensuite en ayant mes propres convictions. Donc là, nous, on avait fait l'inverse, tu vois. On avait créé un produit d'après nos convictions qu'on a transformé avec le marché. Ce qui n'a pas de sens. Et voilà, je referai tout différemment, quoi. Je ferai tout ce que je mettrai en application, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui et qui a permis à la boîte de passer de 10 à 100 millions d'ARR en 3 ans, tu vois.
Mais tu
avoir un complat à la route.
Tu penses pas que c'est des qualités quand même très différentes pour faire passer la boîte de 0 à 1 million, pour la faire passer peut-être de 1 à 10 et pour la faire passer de 10 à 100?
Non, je pense que c'est différent de la faire passer pour la faire passer de 100 à 1 million, enfin tu vois, après.
D'accord.
Bon, peut-être 50, tu vois, mais je pense pas. Non, je pense que, enfin, jusque 50, je pense pas. Je pense que c'est la même chose. Alors après, ça dépend, tu vois. Non, mais c'est compliqué comme question parce que je pense que tu as des gens qui peuvent faire passer une boîte de 0 à 1, mais pas de 1 à 50. Je pense que tu as des gens qui peuvent faire passer une boîte de 0 à 50. Je pense que tu as des gens. Chacun a ses propres qualités, ses propres défauts. Nous, on le fait, on l'a fait. Mais avec beaucoup de difficultés. Donc peut-être que moi je suis pas un bon mec pour faire passer une boîte de 0 à 3 en fait, parce que j'ai mis 8 ans. Donc tu vois, je sais pas. Je pense que pas des qualités très différentes. Par contre, manager une boîte en bourse, manager une boîte où il y a 5000 employés, etc., c'est très différent. Je pense que c'est pas une question d'ARR en fait, ou de chiffre d'affaires, c'est une question de nombre d'employés.
Ok. Et aujourd'hui, vu que vous avez revendu, à aucun moment l'IPO ça a été un sujet. L'IPO, la mise en bourse, en bourse.
Ouais, de toute façon, juste avant de revendre, on avait des term sheets pour le relever 50 ou 60 millions, donc on a relevé, ça aurait fait 120 ou 130 millions de levée. C'était la seule, de toute façon, c'était la seule sortie, c'était ce qu'on visait. Je pense qu'il n'y avait pas assez d'ego pour y aller. Tu vois, ça m'intéressait pas forcément d'aller vendre ma boîte 2, 3 milliards de dollars. C'était pas parce qu'en fait, à ce niveau-là, tu as besoin d'ego. Tu as besoin d'une ambition qui n'est plus l'argent ou qui n'est plus au-delà de ton épanouissement, etc. Ça doit vouloir, c'est aller choper une gold medal aux Jeux Olympiques. C'est vraiment, j'ai besoin de ça, quoi. Et moi, j'avais pas ça en moi, j'avais pas envie de me cramer encore pendant 3 ans pour aller chercher, ça faisait 10 ans, ça faisait 3 ans de plus. C'est compliqué après d'être CEO d'une boîte publique parce que c'est plein de regulations, c'est plein de. Donc, ouais, non, j'avais pas ça.
Ok. Et t'as hésité quand même ou tout de suite t'as su?
Ouais, on a beaucoup hésité. En fait, on a eu une première proposition à 200 qu'on a refusé au bout de 2 mois. On a eu 2 mois pour refuser. C'est difficile de faire à 33 ans de refuser une proposition où tu gagnes beaucoup d'argent, quoi.
Ouais.
Et pourquoi tu l'as refusé? Ils sont revenus vers nous.
Mais ta femme, elle te dit quoi à ce moment-là? Parce que j'imagine que ça compte, ta femme, elle te dit. Mais...
Ma femme, elle me dit, t'es fou.
Bah oui, t'es un fou furieux.
Voilà.
Ouais, elle te dit ça.
Me dit, t'es fou.
Et pourquoi t'as pris cette décision?
Parce que mon board, tu vois, nous était hyper supportif en me disant, mais allez, on continue. Et parce que, je sais pas, je me rappelle, parce que j'ai reçu un mail d'une nana de notre customer support. Mais je sais pas, elle connaissait pas, elle savait pas qu'on avait une offre, tu vois, c'était secret, en plus c'était une boîte qui était en bourse, et qui me dit, John, on travaille énormément en ce moment, et je voulais juste te dire qu'on adore ce qu'on fait, et qu'il faut qu'on continuons autant qu'on peut, etc. Et je me suis dit, putain, mais en fait, pourquoi on vend aujourd'hui? Voilà. Bon après, il s'est passé plein de trucs, ils ont monté le prix à 300, on a compris que c'était une boîte avec une culture incroyable. J'ai rencontré le CEO plusieurs fois et on s'est dit qu'en fait c'était la meilleure home, comme on dit aux États-Unis, pour nos employés. C'est ça qui nous a, ça qui nous a vraiment plu, quoi.
Cool. Merci pour toutes ces infos. Je vais juste finir l'interview avec quelques petites questions un peu plus deep, même si on a déjà commencé. Mais du coup, c'est quoi ton objectif maintenant ? Maintenant que tu as revendu cette boîte, que là, tu es CEO de la boîte, c'est quoi qui te fait courir ?
Écoute, c'est une bonne question. Moi, ce qui me fait courir aujourd'hui, c'est mes équipes. Clairement, et mon temps avec ma famille, tu vois, j'ai besoin de ça. C'est un truc que j'apprécie énormément aujourd'hui. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants, avec ma femme, ça me plaît beaucoup. Je suis entouré d'équipes géniales, franchement, j'adore mes équipes. Donc, ça me fait vibrer. Maintenant, dans la vie en général, je pense que je suis à un moment où j'ai envie de créer un peu d'impact. Je pense que j'ai envie de faire des choses bonnes et bien. Pour les gens, pour la planète, pour le monde. Donc, je réfléchis à ça, voilà. Je réfléchis un peu à comment je peux utiliser mes compétences, peut-être un peu de mon argent et mon savoir-faire pour pouvoir avoir un impact sur la planète.
Ok. Quel conseil tu donnes à des jeunes entrepreneurs, là ? J'imagine que tu as investi dans pas mal de boîtes avec des petits jeunes qui démarrent, qui manquent probablement d'expérience. Quel conseil tu leur donnes ?
Après ça, je donne plein de conseils à plein de, tu vois, sur plein de, il y a des conseils différents sur chaque domaine d'activité, sur chaque domaine dans l'entreprise, etc. Mais moi, je leur dis souvent dream big, tu vois. Je pense vraiment et sincèrement que rien n'est impossible. Je pense qu'en plus, on est dans un monde aujourd'hui où on peut aller au-delà de beaucoup de barrières. Et je pense qu'on peut devenir très gros. Il faut arrêter de se dire qu'en France, il faut arrêter de se flageller en se disant qu'en France, on est moins bon que les autres. Je pense que c'est très, très faux. Pour être parti aux États-Unis et y avoir vécu 6 ans, je peux te dire que les Français sont bien meilleurs que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Américains. Sauf qu'on a un problème, c'est qu'on pense être moins bon que les autres. Et du coup, on a ce complexe d'infériorité qui est insupportable. Voilà, je pense qu'il faut revenir, il faut avoir confiance en soi. Et se dire que en étant français ou européen, on est tout à fait capable de créer des leaders mondiaux et que l'environnement est en train de changer et que dans quelques années, il y aura plein de licornes,
okay.
Plein de unicornes en Europe. Pas parce que les gens seront devenus meilleurs, mais juste parce qu'il y aura plus de financement.
Okay.
Donc, dream big et soyez sûr de vous en tant qu'européen et français parce qu'on n'a rien à envier aux Chinois ou aux Américains.
Et toi, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné, à contrario ? Et le pire ? Le meilleur et le pire ?
Alors, le meilleur qu'on m'ait donné, il y en a deux qui me viennent à l'idée, à l'esprit, là, mais c'est des conseils bêtes. Hein. Mais le premier, c'était souris quand tu parles à quelqu'un. Et je trouve que c'est génial comme conseil. Ça veut dire que, ouais, prends la vie avec humour, quoi. Tu vois et toujours sourire sur tes lèvres parce que un, c'est communicateur, et deux, la vie est trop courte pour prendre la tête. Et même quand tu montes une boîte, enfin, tu vois, le sourire, c'est hyper important de prendre du recul, de toujours relativiser. Et le deuxième, d'ailleurs, qui est lié à ça, c'est on sauve pas des vies. Faut arrêter de se prendre la tête. Moi, je me vends des solutions RH, quoi. Ça va. Si le mec demain, il est pas livré en temps et en heure, il va pas mourir. Et si moi, je loupe un contrat, il y a personne qui va mourir, quoi. Donc, relativiser et prendre la vie un peu avec légèreté et humour, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Voilà.
Et le pire ?
Le pire conseil qu'on m'ait donné ?
Ouais, le pire.
Vends ta boîte à 10 millions d'euros.
Ok, t'avais une offre à 10 millions ?
Avec la Poste, je te l'ai dit.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison, pardon. Et qui te l'a donné celui-là ? On peut pas dire.
Un investisseur de l'époque qui a d'ailleurs vendu sur du secondaire sur une valeur à 40 et qui malheureusement aurait dû rester jusqu'à la fin.
Ouais. Ah, tant pis pour lui. Au moins il a suivi ses conseils, ses mauvais conseils.
Exactement. Il n'a rien à se reprocher.
Génial, génial. Bah écoute, sur ces beaux mots, je te remercie beaucoup, Jonathan, pour ton temps, pour tes conseils et pour ton histoire qui est quand même. Assez belle, finalement. Ça s'est bien passé à la fin.
Donc,
c'est cool.
Merci beaucoup.
Merci pour ta transparence et moi en tout cas je me suis régalé. Salut.
Merci beaucoup. Ciao ciao.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.